OK, mon prochain invité, on est déjà à plus de 30 minutes de retard. Puis dans ce qui coûte cher dans la vie, il y a les avocats en haut. Puis après ça, il y a les comptables. Et lui, il est comptable. Il est expert en finances corporatives. Il est évidemment CA et toutes ces patentes-là. Là. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Fait que, et en plus de ça, dans ses temps libres, il est le présentateur maison et animateur de foule des matchs du Rouge et Or. On s'en souvient plus, mais c'est du football qu'il jouait à Québec dans le temps. Alors, on va le rejoindre tout de suite, Christian Côté. Salut, Christian!
Salut, Stéphane. Oui, c'est, oui, ça fait, on dirait que ça fait longtemps.
Eh hey, bien, tabarouette, le dernier match, ça va faire un an. Donc, ça
écoute,
a fait un an déjà.
Coupe Vanier, novembre, le 23-24 novembre 2019.
Oui, c'est ça, ça va vite en tabarouette,
ouais. Ouais, j'étais allé vous voir dans la semaine avant, puis on avait plus de neige qu'on en a là.
Ouais, c'est ça, c'était différent à ce mois de novembre-là. Est-ce que, je sais que tu es impliqué dans l'équipe, on est-tu déjà à prévoir une saison que je qualifierais de passablement normale dès le mois d'août prochain?
Oui, évidemment, tout va dépendre de l'évolution de la pandémie, tout va dépendre des durées de confinement et surtout de la rapidité du déconfinement et de la façon dont ça va se faire. Évidemment, on souhaite tous que cette histoire-là soit derrière nous, rendue à l'été 2021. On va voir comment ça va se passer. C'est sûr qu'à un moment donné, il était question d'un tournoi au mois de mai. À un moment donné, on a beaucoup vu avec Glenn, voire avec qui était un tournoi, entre autres, à quelques des meilleures équipes au pays, là, je te dirais Western, McMaster, Saskatchewan, Calgary, Montréal, puis Laval. Évidemment, on parle de quelque chose au mois de mai où il faut réserver des billets d'avion d'avance. Fait que c'est Glenn qui va décider avant qu'est-ce qui se passe avec Jacques, mais sans vouloir aller bien loin, et, à un moment donné, ça devient de moins en moins facile au fur et à mesure que les journées passent.
Alors, c'est
ouais, on travaille. C'est sûr qu'on travaille pour la saison. On espère que ça va fonctionner. On espère que les jeunes, tu sais, les jeunes sont solides. Hein, nos étudiants universitaires là, il y en a plusieurs qui ont quitté. Un gars comme Émile Chenevert qui aurait joué sa cinquième année en médecine pendant qu'il étudiait en médecine. Ben là, évidemment, c'est terminé dans son cas. C'est terminé dans plusieurs joueurs d'impact. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Ça va changer le portrait un peu. On espère que nos jeunes vont être encore très motivés. C'est un gros défi hein, de s'entraîner sans arrêt. Là, les jeunes ont arrêté de jouer à mi-novembre 2019, puis ça s'entraîne depuis ce temps-là. Fait qu'on souhaite ardemment qu'il y ait une saison. Il va falloir revenir à la normale anyway. Là.
Good. Oui, puis on a tous hâte que ça revienne à la normale. Maintenant, comme expert en finances corporatives, comment ça se passe la dernière année? Parce que là, vous replongez. Je comprends que les entreprises n'ont pas les fins d'année à des dates fixes. Pour les particuliers, mais bien sûr que on va replonger là, dans nos rapports d'impôts dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça a été quoi financièrement la dernière année pour les entreprises que tu vois passer?
Ben écoute, je te dirais c'est diamétralement opposé. On sait que de façon standard, il y a des secteurs évidemment, on n'a pas besoin de les nommer, hein, restauration, hôtellerie, tous les secteurs qui sont liés au touristique ont souffert énormément. Je connais beaucoup de gens au niveau de la restauration qui se sont recyclés dans d'autres choses. À un moment donné, qui disaient qu'ils avaient vraiment la passion, mais qui ont dit là, j'en peux plus d'attendre. Tout le secteur des bars, ce secteur-là, évidemment, c'est pas facile. On avait une qualité de restaurateur à Québec. Je connais très bien Gallo, moi aussi. Il y en a plein d'autres. Bon, on avait une grande qualité que j'espère qu'il souffrira pas trop. Mais c'est sûr que le portrait va changer dans cette industrie-là en même temps. Ben tout ce qui était lié à construction, ça a complètement explosé. Tout ce qui était à rénovation, tous les secteurs là, proches du manufacturier aussi, qui ont été capables de prendre le virage internet, le virage web. Écoute, je connais des grandes entreprises à Québec là qui avaient un vendeur web qui sont rendus à 60. Fait que les entreprises ont regardé de prendre ce virage là dans plusieurs cas ont augmenté leur chiffre d'affaires, puis ont vu leurs dépenses diminuer. On a coupé du loyer locatif, on a coupé du personnel, donc c'est une nouvelle façon de faire les choses. Est-ce que ça va complètement rester comme ça? Moi, je pense qu'il y a un équilibre qui va venir, mais on reviendra probablement pas à ce qui était traditionnellement avec autant de monde dans les tours à bureau que ce qu'on a connu avant.
Est-ce que financièrement, il y a eu beaucoup de fake dans le sens où l'aide gouvernementale fédérale était tellement... Tu sais, moi, je regarde, moi, j'ai une petite entreprise, puis je trouve ça quasiment injuste, mais je suis pas un fou d'une poche. Ils me l'offrent, l'argent, m'en ramasser, ils me l'offrent, ils sont venus me l'apporter.
Absolument.
Mais j'ai pas eu de baisse financière. Tu sais, je comprends pas, mais en même temps, honnêtement, je m'en cache pas. Mais beaucoup d'entreprises vont avoir eu ces montants-là. Est-ce que ça peut les ébranler pour plus tard?
Ben écoute, c'est sûr qu'il y avait des mesures, là, par exemple, le prêt de 40 000. Là. Le fameux prêt de 40 000, il y a des gens qui avaient plusieurs entités. J'ai plusieurs clients, plusieurs amis en business qui avaient 2, 3, 4 entités. Ben, ils ont touché 4 fois le 40 000. Puis, ils vont remettre 4 fois 30 000. Fait qu'il reste 40 000 à la fin dans leur poche. Puis ça, ben c'est parfaitement légal. C'était l'objectif, fournir des liquidités. Évidemment, il fallait qu'il reste des liquidités dans le système. Fait que ça, c'est correct. De l'autre côté, ben c'est certain qu'il y en a qui ont peut-être étiré un peu la notion de subvention salariale. On sait que la subvention salariale est admissible quand tu étais capable de prouver une baisse de revenus. Il y avait des pourcentages spécifiques, les 30, après ça tombait à 10, 15 et 10 %. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des validations de tout ça. Est-ce que le gouvernement fédéral, via l'Agence de revenus du Canada, va être en mesure de valider tout ce qui s'est fait? Certainement pas. Mais il y en a qui vont se faire valider. On voyait que déjà, il y avait 213 000 Canadiens qui pourraient rembourser des trop perçus. Puis il y a eu déjà 830 000 remboursements volontaires, 20 000 dénonciations. Fait que, tu sais, ces choses-là vont continuer, mais est-ce qu'il y a un nombre suffisant d'inspecteurs pour valider tout ça? Certainement pas. Évidemment, tous ces programmes-là ont des impacts. Fait que les entreprises qui vont en avoir bénéficié, tant mieux. Moi, je pense qu'il faut être capable. Un, faut savoir que toutes ces sommes-là sont imposables, d'une part. Et d'autre part, faut prévoir l'impôt, comme un peu les particuliers au niveau de la PCU.
OK. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai l'impression que les entreprises ont été aidées financièrement, mais que les retombées sur les employés, ça a pas été aussi direct. Tu sais, ça veut dire que les employés qui travaillent, qui ont perçu leur salaire, ça a pas changé, là, ceux qui ont pas perdu leur travail. Pendant ce temps-là, leur employeur, lui, a reçu une subvention salariale. L'entreprise a obtenu également des subventions de loyer ou de toutes sortes, puis le prêt, tu en as parlé tantôt. Donc, l'entreprise fait des bénéfices qui ne se reflètent pas sur l'employé.
Ben, il est certain que dans certains cas, c'est arrivé. Tu sais, l'objectif de la mesure, là, c'est de dire, gardez donc le maximum d'employés à votre emploi, même si vous avez une baisse de revenus. C'était ça, l'objectif. Okay. Alors, on disait, vous avez une baisse de revenus, par exemple, de 30 % 35 % gardez vos employés en place, on va vous donner de l'argent pour subventionner 75 % des salaires. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont tiré à la sauce. Il y en a certains qui ont dit à leurs employés, écoutez, on va vous donner une partie de la paye. Il y en a certains qui ont dit, ben, on vous donnera pas vraiment la paye, on va vous donner certains avantages. Je pense que la grande majorité des employeurs ont été très très limpides dans ça. Mais il est certain que si un employeur avait une certaine baisse de revenus qui était admissible, mais avait pas nécessairement besoin de tous ses employés, ils n'avaient peut-être pas tout gardé. Là. Fait que c'est certain que, en bout de ligne, ça a aidé les employeurs, ça a gardé plusieurs entreprises en vie. Moi, je connais, tu sais, quand t'es dans le secteur de l'automobile, par exemple, puis du jour au lendemain, là, t'arrives à mi-mars, hein, t'arrives à 16, 17, 18 mars, là, tu te fais dire, bah, ben, c'est parfait, on ferme. Mais là, tu viens de manger de l'argent en décembre, en janvier, en février, puis dans les deux premières semaines de mars, t'arrives devant le moment où, bon, ben, ton service va se remplir parce que les changements de pneus approchent, les remorquages, c'est la fin des temps froids, alors il y a beaucoup de véhicules au niveau du service. Ton meilleur temps de l'année, ça devient ta vente de véhicules neufs, véhicules usagés qui part mi-mars, après ça, mois d'avril, mai, juin, c'est fort. Puis là, tu te fais couper ça en partant. Il est certain qu'il fallait absolument que le gouvernement réagisse, mette de l'argent dans le système. C'est ce qu'ils ont fait. Évidemment, à chaque fois que tu mets de l'argent dans le système, ben, t'auras toujours des gens qui vont l'étirer un petit peu.
Exact. Peut-être la dernière question de ce volet entreprise-là. Je suis fier porte-parole de Roy Métivier Roberge, un groupe de syndics qui sont partout en province. On s'attendait, puis je les ai rencontrés à quelques reprises, on s'attendait à une vague importante de reprises, donc de faillites, autant d'entreprises que de particuliers. C'est pas arrivé autant qu'on le pensait. Est-ce que c'est retardé? Est-ce que tu penses que au retour à la normale, puis que l'arrêt de cette aide financière-là, puis si les gens sont un petit peu frileux, que là, ça va péter aux frettes?
Ben, d'abord, salut à mes amis Éric Mitivier et José Roberge, que je connais très bien. Moi, je te dirais que sont aussi bien de prendre leurs vacances tout de suite. Parce qu'effectivement, moi aussi, je pense que ça va être simplement retardé. Il y a eu de l'argent qui a été mis dans le système. Mais là, on était, tu sais, le temps des fêtes ne s'est pas déroulé comme il devait se dérouler, hein. Les magasins de détail, ils ont eu un bon impact au mois de novembre, décembre. Là, ils n'ont pas l'impact de Boxing Day, ils n'ont pas l'impact d'après ça de la reprise. Les restos, c'était tranquille. Janvier, c'est peut-être pas grave le resto, mais il a quand même manqué mois de novembre, mois de décembre, qui étaient des excellents mois avec les parties de bureau, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises là qui se sont étirées, puis qui seront pas capables de reprendre. Moi, je pense qu'effectivement, il va avoir un impact majeur dans les 6 à 9 prochains mois. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui seront pas capables de survivre à la prochaine vague. Puis j'espère que le gouvernement, je crois à la COVID, je crois à tout ça, je crois à l'impact de ce que ça a. Puis je pense qu'il faut prendre ça de façon excessivement prudente. Par contre, là, je pense qu'on est rendu à croiser des chemins au niveau économique. Là. Il faut que ça arrête. Les confinements, là, il va falloir qu'on soit capable d'ouvrir notre économie, puis faire en sorte que les gens reprennent un peu leur quotidien, tout en gardant certaines mesures sanitaires, certaines mesures de contrôle des parties et des rencontres sociales. Mais je pense qu'on est à la croisée des chemins au niveau économique. Puis c'est pas vrai que nos gouvernements vont pouvoir continuer à imprimer de l'argent pour supporter l'économie.
Au plan personnel, maintenant, là, c'est les rapports d'impôts que les gens vont commencer à vouloir préparer et faire. Est-ce que ce sera plus compliqué avec les mesures qu'il y a là? Est-ce qu'on devrait se tourner pour le faire nous-mêmes? Comment ça va se dessiner au cours des prochaines semaines?
Ben, il faut que les gens pensent. Si vous avez touché la PCU, là, j'espère que vous avez pas tout consommé la PCU, parce qu'il faut comprendre que contrairement à un salaire, la PCU te donnait 2000 pièces dans ton compte à chaque mois, 500 pièces par semaine, tu pouvais avoir un maximum de 14 000. Et il n'y avait pas de retenue à la source. Hein. Fait, quand on touche notre salaire, notre employeur est obligé de prélever des retenues à la source. Alors, notamment impôt fédéral, impôt provincial, en plus de tout ce qu'on sait, RRQ, Assurance emploi, RQAP, etc. Mais là, dans le cas de la PCU, c'est un montant qui arrive dans ton compte. Il est certain qu'au niveau impôt, la PCU va être imposable. Fait que tu sais, ça va dépendre de ton palier d'imposition, mais oui, il y a un énorme impact. Moi, je pense que les conseillers au niveau des rapports d'impôts devraient être utilisés le plus possible, et on devrait faire appel à eux plus rapidement que d'habitude, parce qu'il y a peut-être certaines stratégies. Il y en a une qui est peut-être de prendre un rire s'il y a des gens qui ont, tu sais, par exemple, si quelqu'un, Stéphane, avait déjà une rémunération très faible, tu faut avoir quelqu'un de saisonnier qui venait de commencer à travailler, qui habituellement gagne une 15 000 piastres par année. Dans son cas, ben il y aura pas d'impact, parce que tu sais que ben ou à peu près pas, là, parce que le 13 229 premier dollar, là, eux autres sont pas imposables. Après ça, t'es imposé à 12,5%, qui est ton taux marginal. Puis après ça, ça vaut à 15 500, tu montes à 27,5%. Fait que, tu sais, la personne qui a gagné à peu près juste sa PCU, il y a un impact très mineur. Par contre, la personne qui a gagné malgré tout dans son année 50 000, puis qui avait quand même droit à PCU, qui est allé chercher son maximum de 14 000 au niveau de PCU, ben là, c'est 37%. Là. Fait que c'est 37%
De 64 ou de 14, ouais?
Ben, c'est du 37% de ton 14 000. Fait que c'est carrément 5 200 piastres que tu vas devoir remettre en impôt. Fait que le taux marginal, c'est au-delà de ton 50 000 que tu as gagné, ton revenu d'emploi et tes autres revenus, j'ai touché un 14 000 de plus, puis mon 14 000 de plus, il est dans la braquette de 37% d'impôt. Fait qu'il faut penser à ça. Fait que, tu sais, allez vous chercher un rire. Il n'y a pas tant. Tu sais, je ris des fois quand j'entends des gens de la gauche parler des abris fiscaux. Là, il n'y a plus d'abris fiscaux. Faut arrêter ça, là. Il y en a peut-être des grandes entreprises qui ont des tentacules dans des paradis fiscaux. Mais à part de ça, là, à part du rire, là, il reste plus grand-chose, là, au Canada, là. Donc, tu peux te prendre un rire pour diminuer ton impact, mais c'est sûr que l'impact, de l'imposition au niveau de la PCU est directement lié au palier d'imposition, donc au revenu imposable que tu as. Mais il y en a qui vont avoir des surprises, c'est certain.
Des abris fiscaux au Québec, en tout cas, moi, j'en connais encore une qui est très efficace. La sacoche à ta blonde, c'est efficace. Tu mets ça là, elle est à l'abri, tu ne l'enverras pas. Fait que ouais, c'est à l'abri, t'es à l'abri, cette
chose. En plein ça, j'allais dire main cadenas dessus. Mais, tu sais, t'as un autre impact, hein. T'as des gens, j'ai un de mes clients qui m'a appelé cette semaine, il dit, écoute, il dit, moi, j'ai reçu un chèque au mois de juin de PCU. Puis la paie-maître de ma business m'a rappelé à peu près 3 jours après pour me dire que finalement, comme la subvention salariale était un petit peu plus longue à mettre en application, ils m'ont rappelé puis ils ont dit finalement on va te verser ton salaire rétroactif, puis on va vous garder à l'emploi puis tout ça, fait que c'est correct. Fait que donc moi j'ai pas en bon citoyen, j'ai pas encaissé ma PCU. Qu'est-ce que je fais, Christian? Je l'encaisse-tu, puis une question de délai de compensation, là, mais le si t'es encore dans le délai, je l'encaisse-tu. Écoute, si tu l'encaisses, ben sois prêt à la rembourser, là.
Christian, je veux pas être mis à l'amende. Tu sais, je le comprends, puis il y a un de mes fils, là, ça est arrivé. Il s'est dit ouais, mais là, je veux pas être mis à l'amende, là. Moi, je vais retravailler cet été. Écoute, j'ai dit là, regarde, on verra, rendu là, puis on remboursera. Mais c'est, on veut pas être comme le client, il a touché le chèque, mais il a recommencé à travailler. Puis en plus, ils ont fait un salaire rétro. Il a pas commis de fraude. Est-ce qu'il va être mis à l'amende?
Ben lui, en réalité, il a jamais encaissé le chèque, sauf ce qui est arrivé, il a reçu son T4A. Il a reçu son relevé T4A du ministère. Fait que le ministère, ils ont dit, on t'a émis un chèque, mon garçon. Puis, que tu l'as encaissé ou pas, on t'a émis un chèque. Fait que là, il m'a appelé, moi j'y ai donné, en passant, là, s'il y en a qui veulent prendre en note le numéro général de l'Agence de revenus du Canada, c'est le 1-800-959-7383. 1-800-959-7383. Si quelqu'un est dans cette situation-là, vous appelez. Il y a un chapelet de choix, là, tu comprends? Là? Si vous voulez parler à Stéphane Dupont, faites un, parler à Pierre Blais, faites deux, etc. Mm-hmm. Là. Alors, tu fais le chapelet de choix, mais ça va quand même relativement bien de parler à quelqu'un du ministère. Puis dans le dossier, il y avait effectivement que le chèque avait toujours pas été encaissé. Fait qu'ils vont faire une correction. Sauf que si vous pensez que ça n'a pas été inscrit dans votre dossier, détrompez-vous. Si jamais même vous recevez pas le T4A, peut-être qu'il est perdu dans le poste, mais vous allez être cotisé par la suite, donc il va falloir se défendre de ça. Fait que moi, je pense que si t'as un chèque en main, tu l'as pas encaissé en bon citoyen, assure-toi au moins auprès de l'agence que tu recevras pas de T4A pour t'imposer dessus.
Puis j'ai hâte de voir, puis ceux qui auront des T4 puis qui n'ont pas reçu de PCU, là. Puis je pense à mon chum Pat Demers, qui lui, au niveau, pour ses entreprises, il a dû faire une démarche personnelle et qui a découvert que son identité avait été utilisée en Colombie-Britannique pour recevoir de la PCU avec la même institution bancaire que lui ici à Québec. Là, ça peut occasionner certains problèmes, puis il va falloir se défendre de ces fraudes-là. Puis d'après moi, il va y en avoir plus qu'on pense.
Il va en avoir une puis un autre, puis effectivement, il va falloir se défendre de ça. Il est certain que le télétravail aussi amène autre chose. Hein. T'as un paquet de déductions possibles pour 2020. Des employés, tu sais qu'un employeur pouvait donner du matériel, par exemple, matériel informatique, équipement de bureau, jusqu'à concurrence de 500$. Fait que si, par exemple, ton employeur t'a financé pour 800$, d'équipement, de chaises, d'ordinateurs, tout ça, ben en théorie, t'as un avantage imposable de 300$. Le premier 500 ne l'est pas. Fait que donc, je connais plusieurs. Il y a des assureurs à Québec aussi, comme on en a plusieurs, qui ont installé plusieurs employés à la maison, qui leur donnent un budget de 500. Donc, donc on était à la limite de ça. Ça, c'est intéressant. Puis pour les gens qui ont été en télétravail, faut savoir, Stéphane, que il y a des déductions possibles. Il faut avoir été à la maison pendant au moins 4 semaines consécutives en raison de la pandémie. Donc, plus de 50% de notre temps. Hein. Et puis, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui est plus simple, qui s'appelle la méthode à taux fixe temporaire. En gros, là, 2$ par jour de télétravail, maximum 400$. Tu n'as rien à fournir. Tu ne fournis pas de reçus, pas de pièces, pas de formulaire de l'employeur. Donc, tu déduis 400$. Fait que si, par exemple, tu es à 30% d'impôt, ben, tu récupères dans tes poches 120$.
Mais ça, c'est pourquoi, mettons, là, c'est, ben, mettons, à cause d'utiliser ton Internet, t'as l'usure de ta maison, genre?
Exactement. Si tu es en télétravail à la maison, mais comme si tu continues à te payer, mais tu as le droit d'aller chercher ce qu'on appelle les frais de bureau, donc les et si tu y allais simplement sans rien fournir, tu as le droit à un maximum de 400$. Si tu veux y aller de façon plus compliquée, ben il y a la méthode détaillée qui existe. Là, tu peux aller chercher, par exemple, tes fournitures de bureau.
Je comprends.
Les accès Internet, tes frais, crayons, des babelles. Là, si quelqu'un est à loyer, tu peux réclamer ton loyer.
Okay.
Un propriétaire pourrait réclamer certains éléments, mais il peut pas réclamer là taxes, assurances, intérêts, hypothécaires, tout ça. Mais dans ce cas-là, ce que ça prend, c'est que tu dois calculer comme il faut la surface que tu utilises dans ton domicile. Par exemple, ton bureau représente 20% de ton domicile, ben là, tu dois en faire la démonstration. Faut que tu gardes tous tes reçus, toutes tes factures. Puis en plus, ce qui est un peu plus tannant, il faut que tu fasses remplir un formulaire par ton employeur, qui est le formulaire T2200. Ça peut être un peu plus tannant. Par contre, t'as pas de limitation comme dans le cas du 2$ par jour de télétravail. Ouais. Fait que ça peut donner lieu à plus de montants.
C'est parfait. Moi, comme chez nous, j'ai été en télétravail pour la période nécessaire. J'ai été cette période-là dans une des pièces, puis je l'ai rénovée, je l'ai repeinturée pour que ce soit plus gai. Après ça, j'ai été déménagé, moi, par moi-même, dans une autre pièce que j'ai dû aussi repeinturer. C'est le gars, il a fait le tour de sa maison.
T'es partout, ton bureau est partout.
T'es partout. Hey, merci beaucoup, Christian, puis au plaisir de se jaser. J'espère dans de meilleures circonstances, puis qu'on pourra se parler de football, entre autres.
Ça va me faire plaisir, puis juste une petite dernière finissant, n'oubliez pas que vous avez des plafonds rires, là, la date limite, c'est toujours les 60 premiers jours, là, fait que début mars, on peut cotiser à son rire pour que la cotisation soit déductible dans l'année 2020. Le plafond cette année de rire est 27 230$ ou 18% du revenu gagné. Puis il y a aussi le CELI, hein. C'est faut jamais oublier le CELI, hein. Parce que le CELI, là, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. C'est sûr que tu mets de l'argent. C'est pas une déduction d'impôt. Ça donne pas de déduction d'impôt. Fait que tu prends de l'argent sur lequel tu as déjà été imposé. C'est de l'argent qui est déjà clair dans tes poches. Par contre, les rendements que tu vas faire sur les sommes qui s'accumulent dans le CELI sont à l'abri de l'impôt. Puis pour ceux qui ont jamais cotisé, ben, c'est 75 500$ le montant qui peut être contribué. Puis ça, tu peux contribuer, dans une seule année, là. Tu pourrais contribuer, mettons que tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Ton grand-père t'en a laissé, là. Ben, tu pourrais mettre ton beau 75 500$ dans ton CELI. Puis ne pas avoir d'impact. Puis la beauté de la chose, c'est que oui, c'est de l'argent déjà imposé, mais la beauté, c'est que tout le rendement que tu vas faire va être à l'abri de l'impôt. Fait qu'il faut penser au CELI aussi surtout au niveau des jeunes, là. Le CELI peut être très intéressant.
On va en parler d'ailleurs de ça un peu plus tard. On se recontactera, Christian. Hey, merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'était fort intéressant.
Ça fait plaisir.
Merci, mon ami. Au revoir. Christian Côté est un expert en finances corporatives. Il est comptable agréé CAEEE-CFF et animateur maison des matchs du Rouge et Or. On vient dans un instant.